si vous voulez, je commence donc par rappeler les prochains séminaires. Tout à l'heure, à 11h, ce sera Christian Brunel, du Centre de physique moléculaire optique hertzienne de l'Université de Bordeaux 1, qui va nous parler d'optique non linéaire avec des molécules individuelles. La semaine prochaine, ce sera Philippe Laurent, du Bureau national de métrologie, LPTF, Observatoire de Paris, qui nous parlera de récents développements sur les horloges à atomes froids au BNM LPTF. Le 7 décembre, ce sera Jacques Baudon, du laboratoire de physique des lasers de Paris Nord, Institut Galilée, qui nous parlera de modulation du profil transverse d'un jet atomique par interférométrie Stern-Egerlach. Enfin, le dernier mardi, avant les vacances de Noël, le mardi 14 décembre, à 11h, ce sera le professeur Wolfgang Gartner, de l'Institut pour l'optique quantique de Hanovre, en Allemagne, qui nous parlera de Manipulation and Phase Engineering of Bose-Einstein Condensate. Voilà donc les prochains séminaires. Je voudrais aussi, plusieurs d'entre vous ont demandé si le cours de cette année était disponible sur le web. Grâce au dévouement et au travail incessant de Franck Lalot et Zahir Dichy, l'ensemble des 11 dernières années du cours de physique atomique du Collège de France, de 88-89 à cette année, 99-2000, est disponible sur le web à l'adresse www.ens.fr/cct. Et je signale également qu'un CD contenant ces 11 cours commence à être produit, donc il y aura les 11 cours disponibles sur un CD, ce qui est plus commode que de travailler sur le réseau. Bien, j'aborde aujourd'hui un nouveau chapitre du cours qui est, vous rappelez que dans les séances précédentes, je vous ai parlé d'une expérience où on observait les fronts d'interférence entre deux condensats différents. Aujourd'hui, je reviens à un seul condensat et je vais commencer une série de cours où on s'intéresse à la longueur de cohérence d'un condensat. Donc, je parle donc aujourd'hui de longueur de cohérence d'un condensat. Et plusieurs équipes ont étudié ce problème. Je vais discuter un petit peu les expériences l'une après l'autre. Et aujourd'hui, je me concentrerai sur l'expérience faite dans l'équipe de MIT, l'équipe de Wolfgang Ketterle. Et je vais donc, si vous voulez, commencer par une rapide introduction pour expliquer un peu quel est le problème. Le but de ces expériences, c'est de montrer, de montrer que la longueur de cohérence d'un condensat est de l'ordre de grandeur de son extension spatiale. En effet, dans les théories de champs moyens que nous avons passées en revue l'an dernier, que j'ai rappelé dans le premier cours, on prédit que tous les atomes, pour T très petit devant la température critique, tous les atomes sont condensés dans le même état quantique qui est décrit par une fonction d'onde réelle, psi de R, solution de l'équation de Gross-Pitaevsky. À ce moment-là, la fonction de corrélation d'ordre 1, G1 de RR', c'est tout simplement N, le nombre d'atomes condensés, que multiplie le produit des deux fonctions d'onde réelle, psi de R et psi de R' au point R au point R'. Si je fais varier R et R' dans l'espace, on se rend compte que cette fonction de corrélation n'est pas nulle quand R et R' sont séparés par des distances de l'ordre de la dimension du condensat. Question, est-ce qu'on peut vérifier ce point? Est-ce qu'on peut mesurer cette fonction de corrélation? Et est-ce qu'on peut vérifier que la longueur de cohérence est de l'ordre de grandeur de l'extension spatiale du condensat? Alors, d'abord, il y a une petite difficulté ici. C'est qu'il nous faut définir de manière plus précise la longueur de cohérence, lambda c. En effet, dans un condensat inhomogène, comme c'est le cas d'un condensat piégé dans un piège, la fonction de corrélation G1 de R' ne dépend pas que de R moins R', à cause du fait que la variance par translation est perdue. Elle dépend à la fois de R et de R'. Donc on ne sait pas très bien définir une dépendance en R moins R'. Alors, pour ce faire, il y a une idée très simple, c'est de dire, prenons tous les couples de points, R et R' séparés de A. Autrement dit, prenons tous les couples de points, R et R plus A, A étant fixe et R variable. Et sommons toutes les cohérences spatiales, G1 de R, R plus A, avec A fixe et R variant dans l'espace. Autrement dit, définissons une fonction de A qui est G de A égale somme de D3R, G1 de R, R plus A. On peut définir ça comme la cohérence spatiale globale à une distance A. Alors ça va être une fonction qui ne dépend plus que de A maintenant, qui fait une sorte de moyenne sur le condensat. Et si je porte cette fonction en fonction de petit a, je m'attends à ce qu'elle décroisse et tende vers zéro quand petit a devient plus grande qu'une certaine longueur. Cette longueur sera la longueur de cohérence. D'accord ? Donc, à partir de cette fonction, on peut définir une longueur de cohérence comme la longueur caractéristique qui caractérise la décroissance de G de A avec petit a. Alors, ceci étant, il y a un élément très important à réaliser tout de suite, c'est qu'il y a un lien très simple entre la fonction que je viens d'introduire, G de A, et la distribution d'impulsion P de P. Pour le voir, un petit calcul suffit. Je vous rappelle que dans un des cours précédents, transparent trait 35, nous avons montré que G1 de R, R plus A, la fonction de corrélation, c'est aussi l'élément de matrice de l'opérateur de densité à une particule, trace sur les n-1 particules de l'opérateur de densité totale, entre R et R plus A. C'est pour ça qu'on appelle ça une cohérence spatiale. C'est un élément non diagonal de la matrice densité entre deux points différents, que multiplie n. Voilà, donc ça c'est la définition de G1 de R, R plus A. Alors on va maintenant passer de la représentation R à la représentation P, la représentation position à la représentation impulsion, au moyen du changement de base RP égale 1 sur 2 pi h bar puissance 3,5 et puissance IPR sur h bar. Je prends cet élément de matrice, je mets la relation de fermeture somme de D3P, P, P entre R plus A et rho 1, et une deuxième fois la relation de fermeture avec un indice différent, somme de D3P prime, P prime, P prime entre rho 1 et R. J'obtiens donc cette équation. R plus AP, c'est épuissance IPA et puissance IPR sur H bar. Je sors épuissance IPR sur H bar, je mets là. Épuissance IPR sur H bar. P'R, c'est épuissance moins IP'R sur H bar. Donc c'est épuissance IP moins P'R sur H bar que multiplie l'élément de matrice de rho 1 dans la représentation P. Maintenant, c'est pas... Je m'intéresse à G de A, donc il faut que je fasse l'intégrale de cette quantité par rapport à A. Donc j'ai une intégrale de plus, en plus de D3P et D3P', somme de D3R, et le seul endroit où apparaît R, c'est ici. Et je vois apparaître somme de D3R et puissance IP moins P' sur H bar, qui n'est rien d'autre que 2 pi H bar au cube, la fonction delta P moins P'. Cette fonction delta P moins P' me fait sauter une des deux intégrales qu'il y a ici, et je finis avec G de A égale somme de D3P et puissance IPA sur H bar, N, l'élément diagonal de rho 1, entre P et P, qui n'est autre que la probabilité de trouver l'impulsion P, c'est-à-dire la distribution d'impulsion. Je trouve donc que G de A, c'est somme de D3P et puissance IPA sur H bar P de P. Je trouve donc que G de A est la transformée de Fourier de P de P. Donc ça, c'est un résultat très important. La cohérence spatiale globale, G de A, c'est la transformée de Fourier de P de P. D'où l'idée maintenant très normal qui apparaît, c'est que pour mesurer la longueur de cohérence, on peut mesurer la distribution d'impulsion, si on est capable de le faire. Donc on mesure la distribution d'impulsion, ou ce qui revient même la distribution de vitesse, puisque P égale mv. Comme G de A est la transformée de Fourier de P de P, la largeur de G de A, c'est-à-dire la longueur de cohérence, c'est tout simplement H bar sur delta P, où delta P, c'est la largeur de la distribution d'impulsion. Donc vous voyez ce qu'on va faire, on va décrire une expérience où on mesure la distribution d'impulsion et par suite delta P, et on compare H bar sur delta P, la longueur de cohérence, à la dimension X0 du condensat, la dimension du condensat piégé. Alors vous allez me dire, tout de suite, ça c'est trivial, pour mesurer une distribution de vitesse, dans le domaine de recherche des atomes froids, on fait un temps de vol. On coupe le piège des atomes forts par forme une douche et on mesure la photo du nuage un certain temps après. Alors ça marche pour des mélasses optiques, quand les interactions entre atomes sont faibles. Pour les condensats, c'est plus vrai. à cause des interactions entre atomes, en général répulsives. Lorsqu'on coupe le piège, à cause de ces interactions répulsives, le nuage explose. Et les vitesses sont accélérées. Elles ne restent pas les mêmes. Les vitesses sont accélérées par les interactions. Et la distribution de vitesse qu'on mesure sur un temps de vol n'est plus la distribution de vitesse dans le condensat. C'est quelque chose de différent. Donc on ne peut pas faire comme ça. Il faut mesurer la distribution des vitesses dans le condensat lui-même. Donc ça, c'est beaucoup moins trivial. Bon, alors, avant de décrire l'expérience qui a été faite à MIT, je voudrais, il me semble intéressant, de revenir un petit peu quelques années en arrière et de montrer qu'il y a déjà eu toute une série de méthodes, d'expériences, où on a mesuré de manière optique la distribution des vitesses d'un nuage d'atomes froids. Pas nécessairement un condensat, une mélasse optique ou un piège magnéto-optique. Donc, je vais faire un deuxième paragraphe où je passerai en revue des méthodes optiques de mesure de P2P. Ou de P2V, qui revient au même. Alors, évidemment, quand on pense de mesure optique d'une vitesse, on pense à l'effet Doppler. Et je rappelle très simplement l'effet Doppler ici pour une transition à un photon. Pour une transition à un photon, si on a un atome avec un état fondamental G et un état excité E séparé par H bar oméga, si un atome est dans l'état G avec une vitesse V qui est excité par un photon H bar oméga H bar K, d'énergie H bar oméga de quantité de mouvement H bar K, il monte dans l'état excité E, il change de vitesse. Cette vitesse devient V'. La conservation de l'impulsion, c'est MV plus H bar K égale MV'. La conservation de l'énergie, c'est EG plus 1/2 de MV2 plus H bar oméga, l'énergie de l'atome interne plus cinétique plus l'énergie du photon, égale l'énergie de l'état excité plus l'énergie cinétique finale. Le photon a disparu. En élevant cette formule au carré, on obtient V2 en fonction de V'2 de H bar 2K2 sur 2M et 2 H bar K sur M scalaire V. En faisant passer ces deux termes de l'autre côté, je vois H bar oméga égale E moins EG, c'est-à-dire H bar oméga A, plus 1/2 de M V'2 moins V2. Et en éliminant V'2 moins V2 entre ces deux équations, j'obtiens une équation qui est très, très connue, hein, qui est que l'énergie du photon, pour être absorbée, doit être égale à l'énergie de la transition atomique, plus un terme qui est H bar 2, H bar K2 sur 2M, qui est l'effet de recul, plus un terme KV, K scalaire V, qui est l'effet Doppler. Donc la condition de résonance est sensible à la vitesse, et regardant le nombre d'atomes excitants, on serait capable de mesurer la vitesse. Le problème, c'est que les atomes froids ont des vitesses très lentes, de l'ordre du millimètre ou du centimètre par seconde, et que les déplacements Doppler sont de l'ordre du kilohertz, de quelques kilohertz. Or, les états excités ne sont pas infiniment fins, ils ont une largeur naturelle qui est plutôt de l'ordre du mégahertz. Et donc, la largeur des raies optiques est beaucoup trop importante pour permettre une mesure précise du décalage Doppler pour les transitions à un photon. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, on peut tout de suite passer à ce moment-là aux transitions à deux photons, et quand on prend une transition à deux photons, ou bien les deux photons vont vers le haut, ou il y en a un qui va vers le haut et vers le bas, donc ou on prend des absorptions à deux photons, ou on prend des transitions de type Raman. Commençons par les transitions à deux photons, deux absorptions. Alors là, on peut tout de suite donner un exemple récent. Si on considère en effet l'atome d'hydrogène, qui est un atome fondamental en physique atomique, on sait très bien qu'il y a une transition à deux photons entre l'état fondamental ES et l'état 2S métastable de très longue durée de vie, d'une durée de vie de l'ordre de la seconde. Et comme les deux états ont la même parité, on peut les connecter par une transition à deux photons. Et comme l'état 2S a une durée de vie très longue, cette raie est extrêmement étroite et doit permettre de mesurer un décalage de Doppler très facilement. En fait, les deux photons de fréquence d'énergie E2S moins E1S sur 2 doivent se propager dans le même sens si on veut que la condition de résonance soit sensible à la vitesse. On sait très bien que si les deux photons se propagent dans le sens opposé, les décalages Doppler sont opposés et tous les atomes sont excités, quelle que soit la vitesse. On a une transition qui n'est plus sensible à l'effet Doppler. Mais en fait, d'ailleurs, même si on met deux faisceaux laser en sens opposé, il y a toujours une probabilité que les deux photons soient absorbés d'un même faisceau et que par conséquent, on ait un processus sensible à l'effet Doppler. Donc, les transitions à deux photons propageant dans le même sens sur 1S2S permettent de mesurer la distribution des vitesses. Et effectivement, c'est cette méthode qui a été utilisée par une autre équipe de MIT, l'équipe de Dan Kleppner et Tom Kretak, pour mesurer la distribution des vitesses d'un condensat d'atomes d'hydrogène qui a été réalisé il y a seulement une année et demie. Donc c'est une méthode qui marche. Donc je passe maintenant aux transitions à deux photons, mais aux transitions de type Raman. Alors si on prend des transitions de type Raman, on peut d'abord se poser la question, quel est l'état interne, final, initial. On peut d'abord considérer des transitions par effet Raman stimulé entre deux états fondamentaux d'un atome, donc deux états très longue durée de vie, mais qui diffèrent par les nombres quantiques internes. Les deux nombres quantiques internes, FF' ne sont pas les mêmes. Par exemple, FF' sont deux niveaux hyperfins différents d'un atome alcalin. Et à ce moment-là, la transition Raman fait passer l'atome, absorption d'un photon oméga 1, émission stimulée d'un photon oméga 2, fait passer l'atome d'un niveau hyperfin à l'autre niveau hyperfin. Alors, si les photons oméga 1 et oméga 2, la fréquence oméga 1 est très voisine d'oméga 2, hein, si ils ne se propagent pas dans le même sens, mais s'ils se propagent par exemple dans le sens opposé, les effets Doppler sont opposés, et dans la transition Raman, plus K1V, moins K1V, ça double l'effet Doppler. Donc une transition Raman est sensible à l'effet Doppler si les deux faisceaux laser qui induisent la transition ne sont pas parallèles, mais s'ils sont par exemple antiparallèles. À ce moment-là, la transition Raman est extrêmement sensible à l'effet Doppler, puisque les niveaux FF' ont des durées de vie très très longues. Et cette méthode est proposée et utilisée par l'équipe de Steve Chu, c'est la référence 3, Kasevich, Weiss, Ries, Moller, Kazapi et Chu, a été extrêmement féconde dans le domaine des atomes froids pour plusieurs raisons. D'abord pour mesurer les vitesses d'une mélasse, et d'autre part pour exciter sélectivement dans le niveau F' une classe de vitesse extrêmement bien définie. Et pour ensuite jouer avec cette classe de vitesse, faire par exemple du refroidissement sub-recul. Donc ça c'est une méthode où on voit très bien donc une très grande sensibilité à l'effet Doppler. Je voudrais aussi mentionner que, à peu près à la même époque, un certain nombre d'expériences et de propositions ont été faites pour faire des transitions d'effets Raman stimulés, absorption, émission induite, entre deux états fondamentaux qui ont maintenant les mêmes nombres quantiques internes. Forcément, ils sont différents et ils diffèrent par le nombre quantique externe, par l'impulsion. Et ces références, c'est les références donc, de l'équipe essentiellement de Gilbert Grimbert, premier papier de Go, Berman, Dubetsky en 92, puis ensuite une série d'expériences en 94 de Courtois, Grimbert, Lounis, Verkerk, Mitscher, Boiron, Metcalfe et Salomon. J'explique très rapidement ici de quoi il s'agit. Si on a le même nombre quantique interne, je le représente plus, et le nombre quantique externe, c'est l'impulsion P le long d'un axe, et donc E égale P2 sur 2M, on a une parabole. Et la transition Raman stimulée, un atome part d'un état P, absorbe un photon oméga 1, fait une émission stimulée oméga 2, et évidemment, si les deux photons n'ont pas la même direction, K1 moins K2 n'est pas nul, et il finit dans un état d'impulsion différent, et par conséquent, on a deux points différents de la parabole qui sont reliés par la transition Raman stimulée. Alors, ce processus il a reçu plusieurs noms différents, que je ne suis pas sûr que je n'oublie pas d'ailleurs. C'est le même type de diagramme qu'on peut introduire pour décrire l'effet Compton, l'effet de diffusion d'un photon par un électron libre, l'effet Compton stimulé. C'est l'effet Compton, le premier photon serait un photon absorbé, le deuxième photon oméga 2 sera un photon émis spontanément dans n'importe quelle direction. Ici, c'est un photon stimulé, donc c'est la raison pour laquelle les gens appellent parfois cet effet l'effet Compton stimulé, où on remplace l'électron par un atome. Mais l'atome restant toujours dans le même état initial, l'état initial est égal à l'état final. D'autres gens l'appellent également résonance induite par le recul, parce qu'effectivement, c'est le recul qui permet de faire en sorte que les deux états connectés ne sont pas les mêmes, n'ont pas les nombres quantiques internes. Également effet Rayleigh stimulé, effet Bragg, il y a toute une série de noms qui ont été proposés pour cet effet. Alors, quelle est la condition de résonance? On réécrit exactement les mêmes choses que tout à l'heure. La quantité de mouvement initial de l'atome plus l'énergie, la quantité de mouvement du photon qui va être absorbé moins celle du photon qui va être émis est égale à MV'. Le signe moins ici, c'est parce qu'il y a une émission. Et de même, 1 demi de MV2 plus H bar oméga 1 moins H bar oméga 2 égale 1 demi de MV plus 2, il n'y a plus besoin de mettre les nombres internes, hein, puisque le nombre interne est le même ici et là. En éliminant V2 moins V' dans ces deux équations, on obtient delta, et en posant oméga 1 moins oméga 2 égale delta oméga, K1 moins K2 égale kappa, on obtient delta oméga égale H bar kappa 2 sur 2m plus kappa scalaire V. Et on voit tout de suite que pour avoir la plus grande sensibilité à la vitesse, on a intérêt à rendre kappa le plus grand possible, donc à prendre K1 et K2 de sens opposé. Parce que là, K1 moins K2 est à peu près égal à 2K parce que les deux vecteurs d'onde des deux transitions sont pratiquement les mêmes si l'écart des deux niveaux d'énergie en bas est très faible. Et on a donc delta oméga égale 4 H bar K2 sur 2M plus 2KV. Et si donc les deux photons se propagent dans le sens opposé, on mesure la vitesse parallèle à kappa, la composante de la vitesse parallèle à kappa. Si par contre K1 et K2 font des angles tout petits, θ, à ce moment-là kappa c'est 2K sinus θ sur 2, c'est à peu près Kθ, et kappa est à peu près perpendiculaire à K, c'est-à-dire on mesure à ce moment-là la vitesse perpendiculaire à K. Alors, pour les expériences qui ont été réalisées déjà sur ces problèmes, on étudie une mélasse optique, et les deux faisceaux laser faisaient un angle très petit entre eux, K1 oméga 1 et K2 oméga 2. Alors je m'excuse ici, un lapsus sur mes notes, c'est X ici, Y là. Hein. À ce moment-là, kappa, K1 moins K2, est perpendiculaire à K1, à K2, donc il est le long de Y. Il faut que je trace maintenant la parabole E égale PY carré sur 2M. Alors, si je me mets de ce côté, oméga 1 plus grand que oméga 2, je pars d'un état P, Y donné, on absorbe un photon oméga 1 de PY égale 0, K1 est perpendiculaire à Y, donc PY égale 0, donc on a une flèche verticale, et puis on émet de manière simulée un photon oméga 2, et on arrive ici. Et ici, c'est à voir kθ. Et vous voyez qu'à ce moment-là, comme dans une mélasse optique, les états de faible vitesse sont plus peuplés que les états de grande vitesse, cet état-là est plus peuplé que celui-là, et donc le processus où l'atome absorbe oméga 1 et émet oméga 2, qui sont proportionnels à cette population, sont plus importants que les processus où l'atome absorbe oméga 2 et émet oméga 1, qui sont proportionnels à cette population. Donc ici, l'onde oméga 2 est amplifiée, parce que ce processus est plus probable que celui-là. Donc oméga 2 est amplifié ici. Par contre, si je me mets de ce côté, PY positif, à ce moment-là, oméga 1 est plus petit que oméga 2, et à ce moment-là, c'est le processus où oméga 2 est absorbé, oméga 1 amplifié, qui sont plus probables que les processus où oméga 1 est absorbé, oméga 2 amplifié, et à ce moment-là, oméga 2 est absorbé. En fait, quand on regarde ce petit schéma, on s'aperçoit que l'amplitude du signal est proportionnelle à la différence de population entre deux états V et V moins delta V. Si delta V est petit devant la largeur de la distribution des vitesses, ce qu'on mesure, c'est la dérivée par rapport à V de la distribution des vitesses. Donc si la distribution des vitesses est une gaussienne, le signal a la forme de la dérivée d'une gaussienne. Et cette gaussienne donne la température, donne la distribution des vitesses, et on peut mesurer ainsi la distribution des vitesses. Voilà par exemple, sur le prochain transparent, un exemple extrait de la référence 7, un article de revue de Gilbert Grimbert et Jean-Yves Courtois, où on voit donc un signal expérimental, où on voit un peu de bruit ici, en fonction de oméga 1 moins oméga 2, et la courbe entre plein, c'est la dérivée, le fit par la dérivée d'une gaussienne qui permet de mesurer donc la température et la largeur de la distribution des vitesses. Je pense que cette expérience, c'est la première mesure de vélocimétrie d'un nuage d'atomes froids par résonance induite par le recul. Donc, nous voyons ici que ces processus rarement stimulés sont très communs pour mesurer avec précision une distribution de vitesse. Et maintenant, je passe au condensat. D'accord ? Maintenant, je passe au troisième paragraphe. Étude d'un condensat. Par vélocimétrie Doppler. Alors, le principe de l'expérience est clair. Donc, c'est exposé dans la référence 1, l'article l'article de Stenger, Inouï, Schikatur, Stamperkern, Pritchard et Keterle. Donc, on excite un condensat par deux faisceaux laser, K1 oméga 1, K2 oméga 2, et bien sûr, oméga 1 et oméga 2 sont très loin de toute résonance optique, plusieurs gigahertz, hein, de manière à éviter toute excitation résonante de l'atome par la lumière et éviter tout processus d'émission spontanée qui tue la cohérence spatiale. Et on prend K1 et K2 en sens opposé pour avoir la plus grande sensibilité possible à l'effet Doppler. Et on balaye oméga 1 moins oméga 2. Delta oméga égale oméga 1 moins oméga 2. Pour chaque valeur de delta oméga, les atomes de vitesse V tels que delta oméga égale h bar 4 pas carré sur 2m plus kappa V, ou kappa égale K1 moins K2, subissent une transition par efféremment simulée qui ne change pas leur état interne, mais qui change leur quantité de mouvement par une valeur h bar kappa, qui est 2 h bar k, qui est grande. Il faut voir que la vitesse de recul dans un condensat, c'est quelque chose de grand. Les vitesses dans un condensat sont beaucoup plus petites que la vitesse de recul. À ce moment-là, ils peuvent s'échapper du condensat plus facilement. Et ce qu'on porte, on va porter... D'ailleurs, on induit la transition rarement, et on coupe le piège, c'est encore plus facilement. À ce moment-là, les atomes qui ont acquis une vitesse 2 h bar k sur n s'échappent du condensat, et on mesure le nombre d'atomes qui s'échappent du condensat en fonction de oméga 1 moins oméga 2. On recommence l'expérience pour plusieurs valeurs d'oméga 1 moins oméga 2, et on porte le spectre, nombre d'atomes qui s'échappent, en fonction de delta oméga égale oméga 1 moins oméga 2, et on reconstruit ainsi le profil de kappa scalaire V. Donc c'est une méthode réellement de vélosymétrie Doppler. Le principe est simple. Alors, donc le principe est simple. Par contre, j'ai fait ici une description extrêmement schématisée dans un condensat. On a des interactions et il faut se poser la question, quel est l'effet des interactions? Certes, le condensat, le piège n'est pas coupé, c'est-à-dire que les atomes ne sont pas en train d'exploser, mais dans le condensat, ils sont en train d'interagir. Et quel est l'effet de l'interaction sur le signal qu'on observe? Et j'ai commencé, si vous voulez, par un cas simple d'un condensat inhomogène. Donc la condition de résonance delta oméga égale h bar k2 sur 2m plus kappa scalaire v a été établie pour des atomes libres. La théorie correcte qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait, en toute rigueur, trouver tous les niveaux d'excité du condensat, toutes les excitations élémentaires du condensat, et trouver les paires de niveaux d'énergie reliés à l'état fondamental, trouver les excitations reliées à l'état fondamental par la transition rarement simulée. C'est ce qu'on appelle dans ce domaine, c'est le facteur de structure dynamique. Il faudrait calculer le facteur de structure dynamique du condensat. Plusieurs auteurs d'ailleurs sont en train de l'étudier actuellement, en particulier Sandro Stringari et Lev Pitaïski. Ici, pour aujourd'hui, je ne le ferai pas en détail, je me contenterai d'une approche beaucoup plus simplifiée. Mais la seule manière de faire correctement le problème, c'est de calculer ce facteur de structure dynamique. C'est-à-dire qu'il faut calculer non seulement l'état fondamental, c'est-à-dire le condensat, mais toutes les excitations élémentaires. Je vais quand même donner une idée un peu de ce qui se passe en prenant le cas simple d'un système homogène. Si on prend un système homogène, la théorie de Bogoliubov, dans certaines limites, pour T très petit devant TC, nous permet de calculer le spectre des excitations élémentaires. Et je l'ai fait l'an dernier en détail, et je l'ai rappelé dans le premier cours de cette année. Les excitations élémentaires pour un condensat homogène, c'est-à-dire une boîte infinie, très grande, leur énergie h bar oméga de k pour un vecteur d'onde k est donnée par la formule racine de h bar de k2 sur 2m fois h bar de k2 sur 2m plus 2n0g, où n0 est la densité d'atomes spatiale qui est uniforme dans un condensat homogène, et g, un paramètre lié à la longueur de diffusion qui caractérise les interactions. G égale 4 pi h bar 2 sur m, c'est tout ça. C'est ce que j'ai rappelé dans le transparent T16 du premier cours de cette année. Le condensat, ça correspond à l'état fondamental, K égale 0. Et après un transfert par effet rarement stimulé, qui fait gagner à l'atome une impulsion de K, 2 h bar K, l'état final atteint, qui est une excitation élémentaire, d'énergie h bar oméga de K. Et à ce moment-là, la différence d'énergie entre les deux états, c'est pas P2 sur 2m égale h bar kappa carré sur 2m, c'est h bar oméga kappa moins h bar oméga 0. Il faudrait calculer la probabilité d'une telle transition pour obtenir le spectre. Alors, pour qu'on prend kappa égale 2k, quand on prend les deux ondes laser en direction opposée et que le transfert d'impulsion est égal à 2h bar k, à ce moment-là, la condition h bar kappa carré sur 2m, très très grande devant n0g, est très largement réalisée. Et à ce moment-là, dans l'expression précédente, ici, ce terme est tout petit devant celui-là, donc à l'ordre 0, je peux le négliger et j'obtiens h bar oméga k égale h bar 2k2 sur 2m, c'est le step d'une particule libre. Et en faisant le développement limité en n0g, je peux calculer le premier terme de correction dû aux interactions, et on obtient à ce moment-là h bar oméga 2k égale h bar 2k, à peu près égal à h bar 2k2 sur 2m, plus n0g. Donc on voit que la variation d'énergie d'un atome initialement dans le condensat et immobile et gagnant une impulsion h bar kappa n'est pas simplement l'énergie cinétique h bar 2k2 sur 2m. Il y a un terme supplémentaire qui est l'interaction, et ce terme veut dire que l'énergie d'interaction avec les autres atomes n'est pas la même suivant qu'il est dans le condensat, k égale 0, ou suivant qu'il est hors du condensat avec l'impulsion kappa, h bar kappa. Et si on veut revenir au calcul en détail, et si on veut comprendre d'où ça sort, on se rend compte que c'est lié à un terme d'échange dans l'interaction. Par exemple, si tous les atomes sont dans l'état k égale 0, le petit diagramme qui décrit l'interaction entre les atomes à deux corps, c'est tout simplement ce diagramme où on passe de k égale 0 à k égale 0, k égale 0 à k égale 0, c'est uniquement les états qui sont accessibles. Si par contre on a un atome k différent de 0, qui interagit avec les atomes k égale 0, ou bien il interagit avec un atome k égale 0 en restant dans l'état k différent de 0, l'autre restant dans l'état k égale 0, ou il passe de k différent de 0 à k égale 0, l'autre passant de k égale 0 à k différent de 0. Donc là il y a un terme d'échange qui n'existe pas ici, et qu'on fait les calculs et on se rend compte que c'est ce terme d'échange qui est à l'origine du fait que l'énergie d'interaction n'est pas la même avec les autres atomes suivant que l'atome est dans l'état k égale 0 ou dans un état k différent de 0. Bon, ça c'est simple, c'est un condensat homogène. Quand le condensat est inhomogène, c'est beaucoup plus compliqué. Quand le condensat est inhomogène, il y a deux modifications importantes qui apparaissent par rapport à ce que je viens de dire. Un, l'impulsion des atomes condensés n'est plus rigoureusement nulle. Le condensat, c'est plus l'état k égale 0, ce qui est vrai pour des particules dans une boîte, c'est très grand. L'impulsion des atomes n'est plus nulle. L'extension spatiale finie du condensat entraîne une dispersion d'impulsion, et c'est précisément la quantité qu'on veut mesurer. Deux, la densité d'atomes n'est plus constante, puisque maintenant le condensat a une forme, une distribution spatiale, et la densité d'atomes est une fonction de R, c'est plus une constante. Alors ici, je vais prendre un traitement approché qui est celui de la référence 1. C'est une sorte une approximation de densité locale. On va considérer que chaque élément de volume D3R du condensat contient, bien sûr, N2R, D3R, atomes, et on va le considérer comme un condensat homogène localement. Et on va introduire une condition de résonance locale au point R par la formule delta oméga égale h bar kappa carré sur 2m plus g de N2R sur h bar plus kappa scalaire V. Ça, c'est l'effet Doppler, ça, c'est l'énergie de recul, et ça, c'est la correction lié aux interactions, une correction qui va dépendre du point R. Et puis, on va considérer que chaque élément D3R du condensat donne un spectre Doppler correspondant à la distribution des valeurs de KV, décalé bien sûr de H bar K2 sur 2M, l'énergie de recul, et décalé de la quantité GN2R sur H bar, qui est la quantité liée aux interactions au point R. Et ensuite, on somme sur R. Autrement dit, par rapport à la fréquence h bar k2 sur 2m de recul, qui est le zéro d'énergie, si vous voulez, le spectre attendu, I de delta oméga, c'est le nombre d'atomes éjectés en fonction de delta oméga, va être en quelque sorte une convolution du spectre Doppler correspondant à la distribution de kappa scalaire V par la courbe donnant la répartition des valeurs possibles de Gn sur h bar, de la correction liée aux interactions. D'où deux problèmes à résoudre. Quelle est la distribution de kappa V dans un condensat? Premier problème. Deuxième problème, quelle est la distribution des valeurs de possible n, qui varie entre 0 et la valeur la plus élevée au centre du condensat n0. Alors ça, c'est un traitement approché. Pour un traitement plus rigoureux du signal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut calculer le facteur de structure dynamique, et ça, c'est actuellement en train d'être fait, et ça va être bientôt publié par dans l'équipe de Trento. Alors, je vais commencer, si vous voulez, par le problème de la distribution de distribution des vitesses. Alors, pour calculer la distribution des vitesses, il faut bien sûr calculer d'abord la fonction d'onde. Et nous savons que pour un condensat, il y a une limite très agréable, qui est la limite de Thomas-Fermi, où on peut trouver une expression analytique de la fonction d'onde du condensat, qui est la limite de Thomas-Fermi. En effet, quand on est à la limite de Thomas-Fermi, on peut négliger le terme d'énergie cinétique, donc négliger dans l'équation de Gross-Pitaïsky le terme moins h bar 2 sur 2m laplacien de psi, qui est compliqué, donc qui introduit des calculs compliqués. À ce moment-là, ce qui reste, c'est une équation algébrique qui permet immédiatement de calculer psi de r au carré. Donc, à la limite de Thomas-Fermi, en choisissant la condition de normalisation somme de psi de r au carré d3r égale n, on obtient pour psi de r au carré, psi de r au carré égale 1 sur mu, une parabole inversée. Mu moins une fonction quadratique de x, y, z avec des coefficients qui correspondent aux fréquences de vibration, le nom de x, le nom de y, le nom de z. Je suppose un condensat avec trois fréquences propres de vibration différentes. Voilà l'expression de la fonction d'onde résultant de l'approximation de Thomas-Fermi. On a une parabole inversée le long des trois axes. Évidemment, qui s'annule quand x atteint la valeur x0, c'est-à-dire que pour y et z égale 0, quand x égale x0 avec 1 demi de m oméga x carré x0 carré égale mu, à ce moment-là, ça s'annule. Donc la dimension du condensat le long de x, c'est x0, donné par cette équation. Le long de y, y0, donné par cette équation. Si je fais x égale y égale 0, j'obtiens psi de r au carré pour r égale 0, j'obtiens donc la densité au centre. Et la densité au centre, n0, psi 0 carré, n0, c'est mu sur g. Donc j'ai mu égale gn0, mu c'est le potentiel chimique, g c'est la constante qui caractérise les interactions, n0 c'est la densité au centre, et en utilisant cette formule-là, ces formules-là, on met tout de suite psi de r au carré sous la forme, psi de r au carré en module égale n0, la densité au centre, que multiplie 1 moins x sur x0 carré, moins y sur y0 carré, moins z sur z0 carré. Ça me donne la probabilité, psi de r au carré, moi j'ai besoin de la fonction d'onde, je sais que la fonction d'onde de l'état fondamental est réelle. Donc, la fonction d'onde psi de r du condensat, c'est racine de n0 que multiplie racine de 1 moins x sur x0 carré, moins y sur y0 carré, moins z sur z0 carré. Donc, j'ai une formule analytique pour la fonction d'onde du condensat, et par suite, je vais pouvoir calculer la distribution d'impulsion. Alors, je suppose que kappa est parallèle à x, c'est parce que les deux ondes laser sont parallèles à OX. Donc ce qu'on mesure, c'est la distribution d'impulsion le long de OX. Et la distribution d'impulsion le long de OX, c'est P de PX. C'est, on part de la distribution d'impulsion à trois dimensions, P de PX, PY, PZ, et on intègre sur Y et sur Z. Sur PY et sur PZ. Quant à P de PX, PY, PZ, on prend la fonction d'onde dans l'espace des impulsions, psi tilde de PX, PY, PZ, qui est la transformée de Fourier de la fonction précédente. Ici, je m'excuse, il y a une erreur. C'est racine de n0. La fonction d'onde, c'est racine de n0. Donc, il faut calculer cette transformée de Fourier, l'élever au carré, elle sommée sur PY et sur PZ. En fait, ce calcul est possible, au moins le calcul de la distribution en trois dimensions. En effet, on change de variable, on pose x sur x0 égale psi, la même chose, état pour y, la même chose, zeta pour z. On appelle rho, flèche, le vecteur de coordonnées psi, état, zeta. On change de variable pour px, py, pz en introduisant kappa x, kappa y, kappa z, en divisant px par h bar sur x0, py par h bar sur y0, pz sur h bar sur z0. On appelle kappa ce vecteur-là. Et on trouve à ce moment-là que ce qu'il y a de kappa x, kappa y, kappa z, c'est une constante, racine de n0 x0 y0 z0 sur 2 pi n barre à la puissance 3/2, i, où i c'est une intégrale, somme sur des fois rho avec rho plus petit que 1, puisque on peut pas, cette quantité n'est pas définie pour rho qui tire à 1, de d fois rho et puissance moins i kappa rho, racine de 1 moins rho 2. En introduisant les angles polaires de rho par rapport à la direction de kappa, l'intégrale angulaire ici, c'est somme de 0 à pi de dθ sinus θ et puissance i moins i carré cosinus θ. Alors, cette intégrale angulaire se fait sans difficulté. Et on obtient donc e puissance i kappa rho moins e puissance moins i kappa rho sur i kappa rho. Et en utilisant des propriétés de parité de l'argument, on montre que i, l'intégrale, la transformée de Fourier, proportionnelle à 2 pi sur i kappa, intégrale de moins 1 plus 1 de d rho, rho racine de 1 moins rho 2 et puissance i kappa rho. Alors ici, à cause du racine de 1 moins rho 2, on a intérêt à poser rho égale cosinus alpha. On fait une intégration par partie, on utilise les parités de la fonction et on obtient finalement l'intégrale i égale moins pi sur kappa 2, somme de moins pi à plus pi de d alpha cosinus 2 alpha et puissance i kappa cosinus alpha. Alors, vous voyez qu'on a intégré une fonction cosinus de alpha entre moins pi et plus pi par une fonction périodique. Et quand on fait le développement en fonction de Bessel de cette fonction-là, on va avoir des termes en cosinus alpha, cosinus 2 alpha, cosinus 3 alpha, cosinus 4 alpha. Et le seul terme qui, multiplié par cosinus 2 alpha, est intégré entre moins pi et plus pi dans quelque chose qui n'est pas nul, c'est le terme où on a cosinus carré de alpha, parce que tous les autres vont me donner des lignes trigonométriques dont l'intégrale est nulle. Et donc le seul terme ici, c'est le terme J2. En effet, si je développe à cause de la parité, je peux remplacer ça par cosinus K cosinus alpha, en utilisant cette formule, développement en fonction de Bessel de cosinus fois de cosinus quelque chose, j'obtiens J0 de kappa plus 2 somme de n égale 1 à l'infini de moins 1 puissance n J2n kappa cosinus 2n alpha, et c'est uniquement le terme n égale 1 qui va me donner une contribution non nulle. Et j'obtiens à ce moment-là I égale 2 pi sur kappa 2 J2 de kappa intégrale de moins pi à plus pi d alpha cosinus carré 2 alpha, qui a une valeur moyenne 1,5, et j'obtiens finalement pi sur kappa 2, J2 de kappa, où J2 est la fonction de Bessel d'ordre 2. Donc, c'est donc psi de kappa égale J2 de kappa sur kappa 2, donc le module au carré de cette fonction, c'est le module de J2 de kappa sur kappa 2 au carré. Kappa 2, c'est kappa x au carré plus kappa y au carré plus kappa z au carré, c'est 1 sur h bar 2, px carré x 0, 2 plus py carré y 0, 2 plus pz carré z 0, 2. J'obtiens finalement que p, la distribution de vitesse, d'impulsion, p, px, py, pz, est proportionnelle à j2 de cette racine carrée, divisé par cette somme de 3 carrés, le tout au carré. Donc j'ai une expression analytique pour la distribution d'impulsion, et maintenant, il faudrait l'intégrer sur px et sur py et sur pz pour avoir la distribution d'impulsion le long de l'axe x. Ça, je ne sais pas faire, on ne peut pas le faire numériquement. On ne peut pas le faire analytiquement, on peut le faire numériquement. Alors, j'ai essayé de m'en sortir de manière différente en faisant la chose suivante, en disant, si je divise J2 varie comme J2 de x varie comme x2 à l'origine. Si je divise J2 de x par x2, j'obtiens quelque chose qui va partir d'une constante et qui va décroître, comme c'est une fonction de paire, comme une parabole. Donc j'ai essayé de trouver la parabole osculatrice à J2 de kappa sur kappa 2. Alors pour cela, j'utilise le développement en série de J2 de kappa, qui est donné par cette formule, au voisinage de kappa égale 0. J'obtiens donc J2 de kappa égale kappa sur 2 au carré, c'est je multiplie quelque chose qui commence par une constante. Je trouve bien que J2 croît au début comme kappa 2. D'accord? Et quand je prends J2 de kappa sur kappa 2 le tout au carré, j'obtiens 1 sur 64 fois 1 moins kappa 2 sur 12, plus etc. le tout au carré. C'est 1 sur 64, 1 moins kappa 2 sur 6. Donc J2 de kappa, la distribution d'impulsion varie en fonction de kappa, comme quelque chose comme ça, comme une parabole inversée ici. Et si je prends cette parabole et que je la remplace par sa gaussienne osculatrice, donc il y a 1 sur 64 et puissance moins kappa 2 sur 6. Je fais cette approximation. À ce moment-là, la distribution d'impulsion P de Px, Py, Pz est puissance moins kappa 2 sur 6, comme ça c'est une gaussienne, à ce moment-là ça se factorise, et à ce moment-là l'intégrale sur Py et sur Pz est triviale, et la distribution d'impulsion de lambda Qx, c'est tout simplement E puissance moins Px au carré sur 6 H bar 2 X02. Alors je m'excuse, je vous embête avec tous ces calculs, mais j'y ai passé énormément de temps, parce que dans l'article de Ketterle, il y a quelque chose que je ne comprends pas, je crois qu'il s'est trompé. Dans la référence 1, au lieu de calculer l'intégrale sur Py et sur Pz de P de Px, Py, Pz, il calcule P de Px pour Py égale 0, pour Pz égale 0. C'est-à-dire qu'il calcule la distribution d'impulsion d'une vitesse le long de l'axe X avec aucune composante sur Y et sur Z. Alors, c'est pas ça qu'on mesure. Quand on fait l'effet Doppler, on mesure la distribution des vitesses le long de X, mais la tombe peut avoir n'importe quelle vitesse le long de Y et de Z. Donc, il faut absolument faire comme j'ai fait, c'est-à-dire calculer d'abord la distribution d'impulsion en trois dimensions et intégrer sur Y et sur Z. Quand on calcule de cette manière, on trouve à ce moment-là une expression analytique pour P de Px, Py égale 0, Pz égale 0. On trouve cette formule. Et à ce moment-là, il remplace ça par une gaussienne. Il trouve que la gaussienne... parce qu'à ce moment-là, on peut calculer... Excusez-moi. Si on remplace P, la vraie distribution par cette distribution-là, on obtient cette formule-là. Et cette formule-là, on peut calculer la variance analytiquement. Et on trouve que la variance, delta Px, plus exactement la racine carrée de la variance, c'est-à-dire l'écart quadratique moyen, est donnée par racine de 21 huitièmes. Autrement dit, dans son article... L'équipe de Ketterle, il calcule delta px, la variance de cette distribution approchée, il trouve racine de 21 huitièmes, h bar sur x0. Et dans le traitement approché que je fais, en plaçant par une gaussienne osculatrice, je trouve racine de 3 h bar sur x0, c'est-à-dire racine de 21 septièmes. Donc ce n'est pas très différent. Mais il me semble qu'il y a un peu un tour de passe-passe, parce que si on prend la distribution de Thomas Fermi, la fonction nombre de Thomas Fermi, qui est en racine de 1 moins x sur x0 au carré, s'annule avec une pente verticale en x égale x0. En y égale y à 0, en z égale z0. À ce moment-là, cette discontinuité et à ce moment-là, on trouve que la variance de Px est infinie. Si on prend la distribution d'impulsion de Thomas Fermi à Px, Py, Pz et qu'on intègre sur Py et sur Pz, on trouve que delta Px est infinie. D'autre part, les courbes expérimentales sont fitées par des gaussiennes. Donc on ne mesure pas la variance. Si on mesurait la variance, on aurait des problèmes. La variance d'une courbe de Thomas Fermi n'est pas infinie parce que la courbe n'est pas comme ça, mais elle s'est arrondie. La vraie fonction nombre est arrondie, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de papiers théoriques pour calculer l'arrondi qui est ici. Quand on prend l'arrondi, on trouve une variance qui n'est plus infinie, mais qui est finie. Mais à ce moment-là, le lien entre la variance, qui est très grande, et la largeur à 1 sur racine de L, n'est plus très simple. Et la mesure de la variance n'est pas une bonne mesure pour caractériser la largeur de la courbe. Il vaut mieux, je crois, faire comme je fais, c'est-à-dire remplacer par une parabole, et prendre la largeur à 1 sur racine de L de cette parabole, qui donne certainement une quantité plus approchée, plus réaliste de ce qui se passe. En tout cas, la différence entre racine de 21 huitième et racine de 21 septième n'est pas très grande, et pour la comparaison avec les résultats expérimentaux, je pense que ce n'est pas dramatique. Il me semble quand même que, ce que je mets ici, il me semble que le traitement présenté ici s'intéresse à la partie centrale de P de Px, et il est plus valable dans la mesure où ce qu'on mesure, on fit la courbe par une gaussienne. Donc, tout le résultat de cette discussion, un peu longue, c'est que delta Px, c'est proportionnel à h bar sur x0, avec un coefficient qui est soit racine de 21 huitième, soit racine de 21 septième. Maintenant, on prend la distribution des valeurs possibles de n. Alors, je rappelle que n de r, c'est n0, 1 moins x sur x0 carré, moins y sur y0 carré, moins z sur z0 carré. Donc maintenant, je passe à la distribution des valeurs possibles de n. Alors, comme tout à l'heure, je vais faire un changement de variable, x, y, z, en xi et z, r en rho, et à ce moment-là, cette formule-là s'écrit n de rho égale n0, 1 moins rho 2. Chaque valeur de rho contribue au signal avec un poids proportionnel au nombre d'atomes situés à cette valeur de rho. D'accord ? Alors, quel est le nombre d'atomes situés dans l'espace rho, rho plus des rho ? Il faut que je repasse à R. Quand je passe de R à rho, j'ai une dilatation x0, y0, z0. Donc P de rho de rho, c'est x0, y0, 0, que multiplie 4 pi rho de 0, que multiplie n de rho. C'est le volume de l'espace compris entre les sphères de rayon rho et de rayon rho plus 0, 4 pi rho de 0, que multiplie la densité au point rho. Et que multiplie le facteur x0, y0, z0, qui est le facteur de dilatation du changement de variable. C'est-à-dire 4 pi n, n au facteur de normalisation, n0 x0 y0 z0, rho 2 racine de 1 moins rho 2 des rho. N étant une constante de normalisation définie par la condition somme de 0 à 1 de p de rho 0 égale 1. Et on trouve à ce moment-là cette valeur pour n. Et par conséquent, p de rho a tout simplement la valeur 15 demi de rho 2, 1 moins rho 2. Maintenant, j'ai la distribution, le poids des valeurs de rho. Ce qui n'est pas lui qui m'intéresse, c'est le poids des valeurs de n. C'est P de n. À chaque valeur de rho est associée une valeur de m par m égale n0, 1 moins rho 2. Donc j'en déduis que P de n dn égale P de rho de rho. Et par suite, P de n, la distribution des valeurs possibles de n, est égale à P de rho, la distribution des valeurs possibles de rho, que multiplie le module de rho sur dn. Alors, P de rho, c'est 15 demi de rho 2 à moins rho 2. 1 moins rho 2, c'est n sur n0. Rho 2, c'est 1 moins n sur n0. Donc je peux réexprimer ceci en fonction de n. C'est 15 demi 1 moins n sur n0, n sur n0. Quant à dn sur 0, 0 sur dn, ce calcul dn sur 0 égale moins 2n rho. Donc 0 sur dn en module égale 1 sur 2n0 rho. C'est 1 sur 2n0, 1 sur racine de 1 moins n sur n0. Et quand je remplace ça là-dedans, j'obtiens finalement la distribution des valeurs possibles de n, qui est p de n égale 15 sur 4n02, n constante. D'ailleurs, dans l'article de Quetelet, il manque le carré, hein, il y a une erreur. 15 sur 4n02, n racine de 1 moins n sur n0. Et c'est une courbe qui a cette allure, qui est définie entre 0 et 1, et qui a la forme d'une courbe en cloche. Alors maintenant que je connais la distribution des valeurs possibles de n, je connais la distribution des valeurs possibles du déplacement de l'arrêt et la distribution des élargissements de cette valeur. Le n moyen qu'il faut introduire maintenant, c'est l'intégrale de 0n0 de np de nd1. Et le n carré moyen qu'il faut introduire, c'est somme de 0n0 de n carré p de ndn. La variance étant la racine carrée de n carré moyen moins n moyen carré. Alors, ces intégrales se calculent aisément par une série d'intégrations par partie. On obtient ces chiffres un peu folkloriques. On en déduit que n moyen égale 4 septièmes de n0 et que la variance delta n carré, c'est n0 carré 8 sur 147. Bon, n moyen proportionnel à n0 et delta n carré est proportionnel à n0 carré, bien sûr avec des coefficients qui sont calculables. On en déduit que le déplacement du spectre dû aux interactions, c'est z sur h bar, n bar, c'est 4 septièmes de gn0 sur h bar. D'autre part, la courbe en cloche que je vous ai donnée, on peut l'approximer par une gaussienne, là encore. Et si on approxime le profil de p de n par une gaussienne, comme j'ai fait pour le profil de vitesse, le spectre final qui est le produit de convolution de deux gaussiennes est aussi une gaussienne, avec une variance, avec des variances qui s'ajoutent. J'obtiens donc la variance de delta oméga carré, c'est la variance de delta oméga carré due à l'effet Doppler, plus la variance de delta oméga carré due aux interactions. C'est donc alpha 2, h bar 2 sur x02 avec alpha 2 égale 3 ou 21 huitième suivant la théorie. Et ce terme, 8 sur 147, j'ai 2n02 sur h bar 2. Donc finalement, en récapitulant, pour un condensat inhomogène, l'effet de l'interaction, c'est de déplacer le spectre Doppler d'une quantité proportionnelle à n0, et avec un terme qui est calculé en détail, et d'élargir légèrement ce spectre. Le spectre Doppler ne dépend pas de N0, il dépend que de X0, que de la dimension du condensat. L'effet des interactions, lui, ne dépend pas de X0, il ne dépend que de N0. La densité est maximale au centre. Bon, ceci étant, c'est tout ce qu'il faut maintenant pour passer à la description d'expérience. Étude expérimentale. Donc, on part d'un condensat en forme de cigare horizontal. Hein, le horizontal parce qu'il faut que le piège avec la grande raideur soit dans la verticale pour compenser la gravité. On fait varier N0, X0 en changeant la raideur du piège et le nombre N d'atomes condensés. Changer le nombre d'atomes condensés, c'est très facile en faisant une radiofréquence qui coupe l'état piégé à un état qui n'est pas piégé, on évacue des atomes. On mesure N0 par étude de l'expansion balistique, X0 par la mesure du nombre total d'atomes et fréquence du piège, donc c'est une manip assez complexe, il faut faire beaucoup de mesures préliminaires. Ensuite, les faisceaux laser qui induisent la transition en rendement sont appliqués, et un temps très court avant la coupure du piège. On applique les faisceaux rendement, les atomes sont dans le piège. On mesure la distribution de vitesse du condensat, pas de l'expansion balistique. Donc on applique les faisceaux rendement, une fois qu'ils sont finis, on coupe le piège. Et on regarde les atomes qui s'échappent. Et les atomes qui ont acquis la impulsion de dosage marquable vont se distinguer des autres. Ils sont beaucoup plus lents. Alors ici, il y a une petite remarque qui est amusante à faire. Comme Gn0 est très petit devant h bar 2 k2 sur 2n, les atomes qui ont subi la transition rarement, qui s'éloignent avec la vitesse 2 h bar k sur n, restent plus rapides que les atomes qui étaient initialement condensés dans le condensat et qui, sous l'effet d'interaction, vont acquérir une énergie qui est de l'ordre de Gn0. Donc la vitesse, l'accélération des atomes qui sont restés condensés sous l'effet de l'interaction va leur communiquer une vitesse qui est plus petite que 2 h bar k sur m. Donc les atomes qui ont subi la transition rarement vont être très facilement discernables de ceux qui sont accélérés par les interactions. D'accord ? Enfin, l'impulsion rarement doit être assez longue. Elle est comprise d'une quelques centaines de microsecondes. Le temps de l'impulsion rarement est de l'ordre de quelques centaines de microsecondes, mettons 300 microsecondes. Et nous verrons la semaine prochaine d'autres expériences où au contraire on utilise des transitions rarement ultra brèves. Alors il est temps de vous présenter les résultats, et le résultat le plus spectaculaire est celui-là. Voilà le spectre obtenu. Alors, les ronds, ici, les ronds, c'est le signal obtenu sur les atomes du condensat. Voilà. Ça, c'est le spectre Doppler, donc, avec la fréquence repérée par H bar K2 sur 2n, l'énergie de recul. Vous voyez qu'on a un spectre qui, multiplié par 0,2, il serait beaucoup plus haut, hein, qui a une largeur de l'ordre de 5 kHz. Les triangles, ici, c'est un spectre Doppler obtenu non pas sur les atomes du condensat, mais sur les atomes du nuage obtenu après coupure du piège et expansion balistique de 3 millisecondes. Alors à ce moment-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'expansion balistique, les atomes sont accélérés par les forces répulsives qui s'exercent entre eux, et leur distribution de vitesse est beaucoup plus large. Et effectivement, vous voyez l'effet ici de l'expansion balistique, on passe d'une distribution de vitesse à cette largeur à une distribution de vitesse à cette largeur. En pointillé, ici, c'est la distribution des vitesses correspondant à l'état fondamental de l'oscillateur harmonique correspondant au piège, racine de h-bar sur M0. Vous voyez que cette distribution des vitesses ici, pour l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, cette distribution de vitesse est plus large qu'ici. Pourquoi ? C'est parce que les atomes qui sont dans le condensat, sous l'effet des interactions répulsives, font gonfler le condensat. Le condensat est plus gros que la fonction d'onde de l'état fondamental du piège. Donc la dimension spatiale du condensat, ce que j'appelais X0, c'est plus grand que racine de H bar sur M oméga, l'état fondamental du piège. Les interactions font gonfler le condensat. Et la relation de l'incertitude, h bar sur x0, fait que la dispersion des impulsions dans le condensat est plus petite que la dispersion des impulsions dans l'état fondamental du piège. Donc vous voyez ici que l'effet des interactions est en quelque sorte bénéfique en ce qui concerne la distribution des impulsions. Elle donne une distribution d'impulsions plus étroite. Et enfin, la courbe en très tiercée, ici, c'est la distribution des vitesses du nuage thermique à la température où on est. C'est le nuage d'atomes qui n'est pas condensé. Alors, vous voyez que quand on fait une manip habituelle, dans ce domaine de recherche, on coupe le piège et on compare les nuages obtenus après une période sous expansion balistique, c'est-à-dire qu'on compare en fait deux distributions de vitesse, la distribution des vitesses du nuage thermique et la distribution des vitesses du condensat après expansion balistique. Donc, quand on fait les fameuses courbes avec plusieurs couleurs qui montrent le pic étroit qui sort sur un fond large, on compare cette distribution de vitesse à celle-là. Et le contraste n'est pas énorme. Il serait beaucoup plus spectaculaire de montrer la condensation de Bose-Einstein en montrant la différence entre la largeur de la distribution de vitesse du nuage thermique et du nuage condensé, dans le condensat, avant l'expansion balistique. Ça serait une différence beaucoup plus spectaculaire. Alors, autre exemple. La vélocimétrie Doppler permet d'étudier non seulement le condensat, mais elle permet aussi d'étudier le nuage d'atomes obtenu après expansion balistique. Et ici, on porte... Donc les résonances induites par le recul permettent d'étudier l'évolution temporelle de la distribution de vitesse au cours de l'expansion balistique. Et ici, on porte la largeur de la distribution de vitesse après un certain temps d'expansion balistique. 1 milliseconde, 2 millisecondes, 3 millisecondes, 4 millisecondes. Et on voit donc que la largeur de la distribution de vitesse augmente et se stabilise. Elle se stabilise parce que une fois que les atomes se sont éloignés suffisamment les uns des autres, ils ne sont plus sensibles à leur répulsion et leur vitesse ne change plus. L'accélération n'a lieu que dans la phase initiale. Donc les atomes se repoussent. Et la courbe en très plein ici, c'est la prédiction théorique à partir de l'étude théorique faite par Ivan Castin et Razdoum de l'expansion balistique d'un condensat. La courbe en très tiercée montre la contribution à la largeur du spectre des interactions et de la taille finie du piège. Évidemment, quand le condensat gonfle, quand le nuage gonfle comme ça, la contribution de la taille finie devient de plus en plus petite, h bar sur x0, et de même les interactions sont de plus en plus faibles parce que les atomes sont de plus en plus loin. Alors, il y a eu également une étude de l'effet des interactions. La courbe qui est ici donne le centre de la RF en fonction de n0, exprimé en 1814 par centimètre cube. Et on voit effectivement qu'il y a un déplacement de la résonance du spectre Doppler quand on augmente la densité d'atomes. Et la pente qui est ici, c'est la valeur calculée tout à l'heure, je crois 4 septièmes de Gn0 sur h bar. Donc on voit ici que la théorie simple présentée pour calculer le fait que les interactions déplacent la fréquence de résonance moyenne est confirmée expérimentalement. Ici maintenant la largeur du spectre en fonction de n0. La largeur due aux interactions croît linéairement, ça c'est cette droite-là. Et ici, on trace la largeur liée à la taille finie pour deux nombres différents, les ronds et les triangles correspondent à deux fréquences différentes du piège. Et les courbes en très plein donnent racine carrée de le carré de la première largeur plus le carré de la deuxième largeur. Et vous voyez que les résultats expérimentaux sont en accord satisfaisant avec... une théorie qui donne la largeur du spectre total comme résultant d'une contribution d'une interaction et une contribution due à la largeur finie. Enfin, la courbe la plus importante, la dernière, on porte la largeur de la distribution d'impulsion en fonction de x0, la dimension du piège. La dimension du condensat, x0. Et on corrige, on enlève la contribution des interactions, Et on enlève également une autre cause d'élargissement liée au fait que les impulsions laser n'ont pas une durée de vie infiniment longue, ils ont une durée de vie 300 microsecondes, et on enlève l'élargissement dû à la largeur finie temporelle des impulsions laser. Et on a effectivement la largeur du profil Doppler, corrigé donc de ça, décroît avec la taille du condensat, et la courbe en pointillé, c'est la courbe racine de 21 huitièmes à voir sur x0. Si on avait pris d'ailleurs racine de 21 septièmes, on aurait une courbe un peu plus haute qui marcherait mieux avec les résultats expérimentaux, je remarque en passant. Mais on voit très bien à ce moment-là que la largeur de la distribution d'impulsion est en très bon accord, est en bon accord très satisfaisant avec la largeur d'incertitude de Heisenberg. Ce qui montre que la longueur de cohérence spatiale du condensat est de l'ordre de son extension spatiale. Donc on peut conclure ici. Les résonances induites par le recul donc, permettent d'étudier la distribution de vitesse des atomes dans le condensat, condensé dans le piège. C'est pas tellement facile de faire autrement. Nous verrons quand même qu'il y a eu d'autres méthodes et j'en parlerai la semaine prochaine. Deuxièmement, la différence entre la dispersion de vitesse des atomes condensés et celle des atomes du nuage thermique est spectaculaire, et beaucoup plus spectaculaire que la différence entre les largeurs des deux pics obtenues après expansion balistique. Ça, c'est dû au fait que le condensat gonfle sous l'effet d'interaction, que delta X augmente et donc delta P diminue. Un traitement simplifié de l'effet des interactions permet de soustraire leur contribution et de montrer que les résultats sont en bon accord, que delta PX est en bon accord avec la largeur liée à l'extension spatiale finie du condensat. Donc ça montre que la longueur de cohérence du condensat est de l'ordre de l'extension spatiale. Enfin, dernier point, une théorie plus quantitative du spectre, et en particulier du facteur de structure dynamique, reste à faire. Donc, je termine cette expérience ici, et la semaine prochaine, je décrirai une autre expérience, faite cette fois-ci à Gaithersburg, dans l'équipe de Big Phillips, où le même problème a été attaqué, mais par une méthode complètement différente.